Sophrologie.
Parlons sophrologie avec Patricia Penaud.
Avec Patricia Penaud.
Pour faire connaître et découvrir la sophrologie, sa philosophie humaniste,
ses différentes modalités
et ses champs d'application.
Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue dans l'émission Parlons sophrologie. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Témoignages, je reçois Frédéric Pézeres. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia.
Donc Frédéric, vous êtes sophrologue à Paris dans le 8e.
Oui,
et vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a amené à la sophrologie, déjà de manière brève, simplement pour vous connaître un petit peu.
Eh bien, ça s'est fait il y a quand même pas mal d'années. C'était plutôt un concours de circonstances. Hein. C'est une amie qui s'est inscrite dans une école de sophrologie. Donc moi, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Ça m'a intéressée, j'ai commencé la formation et là, je me suis découvert une passion pour la sophrologie et ça a été tout un chemin de vie jusqu'à ce jour. Voilà, c'est assez simple en fait, mais au départ, c'était un concours de circonstances.
D'accord, donc le hasard, on dit que le hasard fait bien les choses et quelque part, voilà, ce concours de circonstances vous a amené à être dans une voie professionnelle qui vous plaît aujourd'hui.
Voilà, tout à fait quelque chose qui m'intéressait, qui me permettait d'être en contact avec les autres et de développer cette partie de moi qui avait envie d'aider, de soigner, de conduire les gens vers un mieux-être en fait.
Très bien. Alors donc aujourd'hui, vous allez nous parler de l'épilepsie. Donc qu'est-ce que l'épilepsie par rapport aux accompagnements que vous faites ?
Alors, j'ai été amenée à soigner effectivement une petite fille qui était atteinte d'épilepsie et qui m'avait été envoyée par un médecin, un neurologue. Donc, ce qu'on peut dire sur l'épilepsie, c'est que c'est une maladie neurologique qui touche le cerveau de manière partielle ou généralisée. C'est-à-dire, ce sont des décharges d'influx nerveux anormaux dans le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une personne soit déclarée épileptique, les crises doivent se répéter. Sinon, ce n'est pas une épilepsie avérée. On peut tous faire une crise d'épilepsie dans sa vie. Hein. Il faut que ça se répète.
D'accord.
En principe, ces crises sont de courte durée et elles peuvent se manifester de manière très différente. Le problème aujourd'hui, c'est que dans environ 60% des cas, les médecins ne sont pas en mesure de déterminer la cause exacte des crises. On peut déterminer la cause quand il y a un facteur héréditaire ou des séquelles d'AVC ou traumatisme crânien. Sinon, c'est le grand mystère.
D'accord.
Ces crises peuvent se produire à tout âge, mais ce sont surtout des enfants ou des adolescents qui sont touchés.
Et alors, est-ce qu'on sait, Frédéric, quand ça touche les enfants et les adolescents, est-ce qu'on sait si ça va durer toute la vie ou pas ?
Eh bien, c'est ça le gros problème de l'épilepsie, c'est qu'on ne sait absolument pas quand ça va s'arrêter et si ça va s'arrêter. Ça peut durer toute la vie, ça peut s'arrêter par moment et reprendre. En fait, c'est une maladie qui est très difficilement gérable parce qu'on ne peut pas dire à une personne « on va vous débarrasser des crises d'épilepsie, c'est un mystère, on ne sait pas ». Ce qu'on sait par contre, c'est que les crises en bas âge favorisent la rémission. Quand
D'accord.
l'enfant est très jeune, on a plus de chances d'arrêter le processus.
Alors donc, première prise en charge, bien évidemment, c'est le médecin qui va s'occuper des crises d'épilepsie, quel que soit l'âge. Mais cet accompagnement peut se faire en partenariat avec le sophrologue.
Ouais,
et donc, comment peut travailler le sophrologue en accompagnement d'un suivi et d'un traitement médical par rapport à des gens qui sont atteints de cette épilepsie ?
Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que les conséquences des crises sont très embêtantes. C'est pour ça qu'il faut absolument une prise en charge. Parce que ça peut générer des blessures corporelles, hein, comme la personne perd le contrôle de ses mouvements. Il peut y avoir des répercussions psychologiques très importantes qui sont dues à l'imprévisibilité des crises. On ne sait pas quand on va faire sa crise. Des répercussions psychologiques également à cause des préjugés. Beaucoup de personnes ont pensé et pensent encore que les gens atteints d'épilepsie ont des problèmes au niveau de l'intelligence. Et également les effets indésirables que génèrent les médicaments.
Et par exemple, comme quoi, comme effet indésirable lié aux médicaments?
Bah, c'est quand même des traitements assez lourds et donc moi j'ai suivi justement une petite fille qui a eu une dose massive au début de médicaments et qui était vraiment comme un légume. Elle avait des pertes de mémoire, elle se sentait très fatiguée. Voilà, il y a quand même un changement au niveau du comportement et de la manière dont se sent la personne, hein.
D'accord.
Donc voilà, c'est pas sans effet, hein. C'est quand même des médicaments qui touchent le système nerveux. Ce qu'il faut savoir
Oui.
également, c'est que pour les crises prolongées ou qui ne se concluent pas par un retour à la normale, ça peut entraîner d'importantes séquelles neurologiques. C'est pour ça qu'il faut absolument consulter un médecin, parce qu'il peut y avoir des dommages aux neurones, voire, mais ça c'est très rare, hein, mais ça peut arriver quand même, le décès de la personne. Donc on peut pas faire l'impasse sur la consultation médicale et la prise en charge par un médecin.
Oui, ça me semble évident, mais c'est bon, Frédéric, effectivement, de le repréciser complètement, oui.
Voilà. Et puis donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on ne peut pas prévenir la crise, on peut quand même en réduire la fréquence en évitant de s'exposer à des facteurs déclenchants. On ne sait pas ce qui déclenche les crises chez une personne, mais on connaît par contre les facteurs qui occasionnent des crises. Les émotions fortes, le stress, le manque de sommeil, le sport intense, la musique forte, les lumières clignotantes, les jeux vidéo, les boîtes de nuit. On a souvent entendu des enfants qui pratiquaient beaucoup les jeux vidéo et qui faisaient des crises d'épilepsie. Les périodes menstruelles chez la femme aussi. Donc voilà, il y a toute une catégorie de facteurs extérieurs qui peuvent engendrer les crises d'épilepsie et ils sont quand même assez nombreux. Donc
Oui,
comment on peut
j'entends ça,
agir?
oui.
Voilà. Comment on peut agir? Bah déjà, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Ça, l'épileptique ne peut plus vivre n'importe comment. Il doit avoir une alimentation saine, il doit éviter les excitants, hein, les excitants qui jouent donc sur le système nerveux, comme l'alcool, la cigarette, le café, les drogues, enfin tout ça. Et ce qui peut bien l'aider, c'est de pratiquer une méthode de relaxation, comme la sophrologie, qui est celle que moi je pratique.
D'accord. Donc là, la place de la sophrologie peut être vraiment prendre de l'importance justement dans la gestion du stress et dans dans le mode de vie finalement.
Oui, tout à fait. Et les médecins neurologues connaissent bien cette pratique, hein, puisqu'ils l'ont vu dans leurs études. Et maintenant, il est assez courant que ces médecins proposent aux parents des enfants, puisque c'est souvent des enfants, d'aller voir en parallèle un sophrologue. Donc le sophrologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider le jeune à gérer son stress, à calmer ses angoisses, parce que faire des crises comme ça, c'est quand même très angoissant. Le jeune ne sait pas quand est-ce que ça va se produire, et puis c'est quand même très intense, donc ça génère chez lui de l'angoisse, il perd le contrôle de tout, hein. Ça va permettre de rééquilibrer son système nerveux. Ça va lui permettre également d'acquérir et de protéger son sommeil, qui est un facteur important de déclenchement des crises d'épilepsie. Justement, la petite fille que j'ai suivie, un jour, ils ont reçu les grands-parents à la maison, elle s'est couchée plus tard, elle a été plus excitée, elle a moins dormi, et le lendemain matin, c'était la crise d'épilepsie.
Ah,
Donc,
d'accord.
ça va
Donc,
également,
oui, un changement de rythme au niveau du sommeil peut déclencher une crise, alors.
Tout à fait, parce que tout ce qui fragilise le système nerveux est un élément déclenchant des crises d'épilepsie. Donc quand on n'a pas assez dormi, même quand on n'est pas épileptique, on sait très bien que on est irritable, on est fatigué, on n'est pas bien, on a notre système nerveux de déréglé, en fait. Donc même pour une personne qui n'a pas de crise d'épilepsie, le manque de sommeil est mauvais, donc a fortiori pour un épileptique, hein. Donc le sophrologue va également apprendre à se concentrer. Il y a des exercices spécifiques au niveau de la concentration, non seulement pour gérer la crise, mais aussi pour se protéger des stimulations excessives du monde extérieur. Ça va aider le jeune à être plus présent à lui-même et à sentir ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas, puisqu'en fait, il ne connaît pas ce qui déclenche ces crises, mais en apprenant à se connaître lui-même, à ressentir davantage les choses, il va pouvoir mieux maîtriser ce phénomène parce qu'il va sentir très rapidement ce qui lui occasionne un état de stress et de mal-être. Donc ça, il va pouvoir le gérer beaucoup plus facilement.
D'accord, donc en fait, là, ça va l'aider à développer sa capacité de discernement.
Tout à fait, exactement, de discernement, de concentration, d'acquisition du calme. Ça va lui permettre finalement également de découvrir, parce que la sophrologie, ce n'est pas de l'hypnose, hein, c'est-à-dire qu'on ne donne pas d'injonction, on aide en fait la personne à découvrir ses propres stratégies, celles qui lui sont individuelles, donc ce ne sera pas celle du voisin, hein, en fonction de lui, de sa personnalité, donc de découvrir ses propres stratégies pour réduire, voire supprimer ses crises.
D'accord. Et
Hein?
donc là, dans
Donc,
votre
oui.
expérience avec cette jeune enfant, donc
Oui.
l'apprentissage de la sophrologie a permis d'apprendre à gérer ses crises.
Complètement. D'ailleurs, elle n'a plus de crise au jour d'aujourd'hui. Hein. Par contre, donc, elle a cessé. Bon, moi, elle est venue me voir sur plusieurs mois, hein, parce que c'est quand même un travail qui s'étale sur le long cours, hein, en fonction de l'évolution de la maladie et de la prise en charge par le médecin.
Oui, c'est
Donc,
toujours
elle
de
a cessé.
manière concomitante que les choses se font.
Voilà. Et exactement. Et il y a une adaptation du traitement, c'est-à-dire plus le jeune va mieux et plus on réduit le traitement, donc on adapte. Donc
Le
ça se
médecin
fait.
réduit le traitement, oui.
Voilà, le médecin réduit progressivement le traitement et jusqu'à le supprimer complètement s'il n'y a plus de crise. Et donc quand il n'y a plus de crise chez cette petite fille, on a continué quand même la sophrologie pour pas arrêter comme ça du jour au lendemain, hein, parce qu'elle s'entraînait également chez elle, parce que moi je grave des CD des séances et la personne peut s'entraîner chez elle entre deux séances. Donc il y avait quand même encore un accompagnement pour voir si c'était acquis ou si c'était seulement une rémission. Au bout de 2 mois, le médecin a donc décidé d'arrêter le traitement. Hein. Donc, on pourrait dire que comme ça faisait plusieurs années qu'elle prenait le traitement, elle était dans une sorte de sevrage au niveau du médicament. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrête un traitement qu'on a pris comme ça pendant de nombreuses années, il peut y avoir des effets. Hein. Et là, chez cette petite fille, il y a des effets. C'est-à-dire, il y a d'autres apparitions, d'autres signes. Elles, ce sont des tocs. Hein. Et donc, il faut continuer la sophrologie, non plus pour éviter les crises, puisque maintenant les crises sont terminées, mais pour pouvoir gérer les troubles qui surgissent quand tout d'un coup, le corps n'est plus aidé avec un traitement.
En même temps, j'imagine que l'accompagnement médical se fait aussi jusqu'à temps qu'il y ait que le médecin décide aussi d'arrêter le suivi médical dans ces cas-là.
C'est-à-dire que après, ce qui se passe, c'est quand la personne ne fait plus de crise, hein, parce que là, ça remonte quand même maintenant à 5 mois. Le médecin considère que le patient est guéri, hein, donc il ne le voit presque plus. Et si jamais il y a des troubles comme ça, comme les tocs, donc là, la personne est dirigée vers un autre thérapeute, c'est-à-dire
Un
quelqu'un qui
psychologue ou
en
oui.
charge. Voilà, pour une thérapie comportementale, par exemple, hein. Ceci dit, là, le sophrologue peut complètement lui gérer ça, hein, parce que les tocs, c'est quelque chose qui peuvent être aussi pris en charge par un sophrologue.
Peuvent être accompagnés aussi. Mais c'est vrai qu'en général, dans le domaine de l'enfance, on aime bien qu'il y ait différents spécialistes qui peuvent accompagner l'enfant pour lui assurer aussi
Voilà.
un aspect sécuritaire. C'est aussi important
Oui.
dans ce
Et moi,
domaine-là, hein.
j'ai toujours un dialogue avec le médecin, hein, c'est-à-dire qu'on s'appelle régulièrement,
Oui.
et donc j'ai toujours en fait un contact avec le médecin, et en fonction de ce qui se passe, je l'appelle pour lui expliquer ce qu'il en pense. Donc vraiment, c'est un travail de plusieurs personnes, hein, je ne travaille pas seule.
Un vrai partenariat
Oui.
pluridisciplinaire comme on aimerait en trouver plus souvent.
Voilà, mais je pense que, en fait, les médecins neurologues, enfin avec qui j'ai été en contact, ils avaient quand même une certaine ouverture d'esprit parce que ils se sentaient impuissants sur tout. C'est-à-dire que eux peuvent constater la maladie, donner un traitement, Mais comme ils ne savent pas ce que ça va donner, c'est-à-dire ils ne savent pas si ça va guérir, s'il va y avoir rémission, s'il va y avoir de nouveau survenu des crises, modification des crises, ils sont eux aussi face à une difficulté. Donc ils ont besoin de travailler en collaboration avec d'autres personnes. C'est vraiment un travail à plusieurs. On ne peut pas s'en sortir tout seul parce que c'est une maladie à multiples facettes, en fait.
Je comprends. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Frédéric, pour ce partage. Vous voulez peut-être ajouter quelques mots de conclusion?
Les mots de conclusion, ça serait que l'épilepsie, c'est une maladie qui est spectaculaire, hein, donc qui impressionne beaucoup et crée beaucoup d'angoisse et de questionnement, surtout pour les gens qui entourent la personne malade. C'est une maladie aux multiples facettes. Il faut absolument, quand il y a des crises qui se répètent, consulter un médecin, parce qu'il peut y avoir des conséquences très très graves. Et il faut également se faire suivre en parallèle par une autre personne qui prend en charge justement tous les facteurs de la vie extérieure qui peuvent générer les crises d'épilepsie. Et enfin, la dernière chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est que la sophrologie accompagne un traitement médical, mais qu'elle ne s'y substitue pas.
Oui, vous faites bien de le préciser. Eh bien, écoutez, Frédéric Pézres, merci beaucoup pour votre témoignage. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Frédéric sur le site www.evolutionformation.eu. Donc, si vous voulez la joindre directement, eh bien, vous aurez son téléphone et ses coordonnées. Frédéric, au revoir.
Au revoir Patricia et merci pour cet entretien.